La science CQFD, Natacha Triou.
Il est 16h, vous buvez votre café dans un gobelet en plastique et du bout de votre touillette, vous vous interrogez, doit-on s'inquiéter de la pollution au microplastique pour notre santé ? Ces minuscules particules plastiques sont partout, dans l'atmosphère, au fin fond des océans, dans les sols, jusqu'en Antarctique, mais aussi dans la bière, le lait maternel, les poumons, le placenta et même dans le sang humain. La liste de cette pollution invisible est longue. Comment mesure-t-on les effets collatéraux de ce désastre environnemental qu'est la pollution plastique ? Microplastique, maxi souci. François Galgani, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes océanographe, responsable de projet à l'IFREMER, l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer. Avec nous, en duplex de Perpignan, Jean-François Guiglione. Bonjour.
Bonjour à tous.
Vous êtes directeur de recherche CNRS en écotoxicologie microbienne marine au laboratoire d'océanographie microbienne de Bagnuls-sur-Mer. Alors merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation en direct des studios de France Culture. Cette émission peut également se suivre sur Twitter, sur notre fil @sciencecqfd. Alors jusqu'à 17h, nous parlerons de l'ampleur de cette contamination au microplastique, des risques environnementaux et de ce que l'on sait de son éventuelle toxicité. Écoutons comme ce sujet, comment ce sujet préoccupait déjà mes confrères en 1973.
Industrialisés et commercialisés depuis la dernière guerre mondiale, les matières plastiques ont insensiblement envahi tous les domaines de notre vie quotidienne. À un tel point que notre habitation de demain sera peut-être une bulle de plastique ressemblant à un vaisseau cosmique venu d'une autre planète. Ces matériaux de synthèse, sortis tout droit des laboratoires des terriens, ont connu un formidable essor dans le secteur particulier de l'emballage qui représente aujourd'hui près de 25% des débouchés de la profession. Beaucoup utilisés dans le domaine alimentaire et mis directement au contact des denrées, l'emballage plastique est soupçonné d'être nocif. Un groupe d'industriels répond.
Savez-vous que notamment dans le domaine des produits alimentaires, la réglementation française est extrêmement dure et que dans ce domaine, les producteurs ont souvent été obligés de mettre au point des matériaux qui permettent la compatibilité totale entre le contenu et le contenant.
Le ministère de la Santé est donc la garantie du consommateur. Lorsque l'emballage a rempli son office, il faut le détruire. Le moyen le plus radical est le feu. On accuse encore les matières plastiques de polluer l'atmosphère par incinération.
Dans un incinérateur, la plupart des matières plastiques ne dégagent à la combustion que de l'eau et du gaz carbonique, comme d'ailleurs les matériaux combustibles naturels. Le seul qui dégage un gaz polluant est le PVC, polychlorure de vinyle, qui ne dégage pas de chlore, de phosgène, ni de gaz de combat, comme il a été dit et écrit maintes et maintes fois, mais qui dégage en plus de l'eau et du gaz carbonique, de l'acide chlorhydrique.
Les dangers des déchets plastiques pour l'an 2000, une archive donc de 1973. Une réaction à ce qu'on vient d'entendre, Jean-François Guiglione ?
Ah, c'est assez étonnant en fait de voir que ça fait déjà depuis 1973 en fait qu'on commence à parler de ces soucis. J'ai l'impression en fait que la science a été un petit peu en retard par rapport à ce qui se passe aujourd'hui et à la demande actuelle, parce que en réalité c'est arrivé vraiment vers le grand public il y a une dizaine d'années à peu près. Et aujourd'hui, c'était essentiellement des scientifiques comme François Galgani ou moi-même en fait qui ont fait un peu le tour du monde avec nos bateaux et qui ont donné l'alerte en fait sur cette pollution plastique qui est vraiment dramatique aujourd'hui. Par exemple, pour vos auditeurs, pour vous donner une idée, en fait, on pense toujours au grand gyre du Pacifique Nord, par exemple, qui serait abusivement appelé le septième continent. Alors évidemment, il faut se méfier de ce mot parce qu'on peut pas marcher évidemment sur les plastiques en mer, hein, mais c'est des zones où il y a des concentrations de plastique qui sont très importantes. Et ben, on a montré également que c'est pas si loin de chez nous. En fait, la Méditerranée aujourd'hui est la mer la plus polluée au monde par ces microplastiques. Les microplastiques qu'on définit par simplement une taille, ils sont inférieurs à 5 mm. Et on focalise beaucoup sur ces microplastiques parce que c'est ceux qui vont être ingérés par la plupart des animaux de la chaîne alimentaire.
François Galgani, pour compléter ce que vient de dire Jean-François Guiglione.
Je pense qu'en fait, si vous voulez, on sait quand même un petit peu plus de choses maintenant. Il n'y a pas simplement que du gaz carbonique qui est dégagé. Il y a tout un ensemble de composants du plastique qui existent, des additifs et autres. Il y a beaucoup plus de matières plastiques qui existent également. Il y a des copolymères, il y a des produits qui se dégradent peu. Et donc, ça a rendu la situation un petit peu plus complexe, à la fois sur le plan environnemental, mais également sur le plan de la santé publique.
Alors, pour bien comprendre de ce dont on parle, un microplastique, qu'est-ce que c'est, François Galgani, et comment cela se forme?
Alors, en fait, il y a deux types de microplastiques. Il y a ce qu'on appelle les microplastiques primaires. Ce sont ceux qui sont faits pour être microplastiques. Par exemple, les petits morceaux de plastique qu'on met dans les produits cosmétiques, comme abrasifs, vous savez, pour nettoyer la peau, ou bien l'industrie. Lorsqu'on fabrique un plastique, en fait, on chauffe le plastique et on le met dans un moule, c'est ce qui va lui donner une forme. Et si vous voulez, on peut pas chauffer des gros blocs qui font 1 mètre cube, 2 mètres cube, et on peut pas transporter le plastique pour la simple et bonne raison, c'est qu'il faudrait chauffer beaucoup le cœur, si vous voulez, de ces blocs. Et ça, techniquement, c'est très difficile et c'est très très cher. Et donc l'industrie, pour pallier à ce problème, elle fabrique des petits granulés qui font moins de 5 mm, qu'elle transporte dans des conteneurs. Parfois, il y a des accidents, si vous voulez, et ça permet de fabriquer des objets à moindre coût. Et là, ce sont des microplastiques qui sont dits primaires parce qu'ils sont faits pour être microplastiques avant de pouvoir fabriquer le plastique. Et à côté de ça, pour 90%, en tout cas dans l'environnement, les microplastiques qui viennent de la dégradation, fragmentation, il y a enfin, on en parlera peut-être tout à l'heure, la dégradation à cause de la lumière, à cause des bactéries et autres, il y a tout un ensemble de processus, mais une feuille de plastique, un emballage, un sac, si vous voulez, ou un morceau de plastique, il va se fragmenter et se dégrader et au bout de quelques années former des petites particules. Ça représente 90% des microplastiques et c'est des quantités qui sont très importantes.
Et Jean-François Guiglione, en effet, 90% des microplastiques viennent donc des macroplastiques. On peut définir justement cette métamorphose de, si on prend par exemple une bouteille en pleine mer, comment elle devient et comment elle se transforme en microplastique, voire en nanoplastique.
En fait, on a un peu évolué par rapport à cette vision de la bouteille qui arrive en mer. On s'est rendu compte que la majorité du plastique, il venait des fleuves, il venait des continents. On considère qu'à peu près 80% des plastiques qu'on va retrouver en mer, ils viennent des continents. Et la bouteille plastique, elle a eu le temps de se casser en morceaux. Alors comment ça se passe? Simplement, quand vous avez une bouteille en plastique, vous la laissez longtemps au soleil, vous voyez qu'elle commence à jaunir, qu'elle commence à s'oxyder. Donc ça, c'est le premier effet, c'est les ultraviolets. Et ensuite, beaucoup, c'est l'abrasion, les vagues, le frottement qui vont faire que la bouteille en plastique, elle va se casser en morceaux. Et ce qu'on a pu montrer dans les dernières années, c'est que les plastiques qui arrivent en mer, soit ils arrivent déjà sous forme de bouteilles en plastique quand ils sont lâchés dans le littoral, près de la mer, soit ils arrivent sous forme de microplastiques déjà quand ils sortent des fleuves, parce que la majorité des plastiques qui vont arriver à la sortie des fleuves, ils sont déjà sous forme de microplastiques et eux, ils vont être transportés partout dans le monde parce qu'en fait, ils ont des durées de vie qui sont assez longues, plusieurs dizaines d'années, voire des centaines d'années. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on arrive maintenant à mieux comprendre ces microplastiques, mieux comprendre cette fragmentation, et on se rend compte en fait que on va classer les microplastiques en 3 grosses tailles maintenant. Mmh. Les plastiques qu'on voit, donc entre 1 mm et 5 mm. Les plastiques qu'on
comme voit un, plus, comme un grain de sable à peu près.
Comme un grain de sable, mmh. Voilà. Et puis les plastiques qu'on commence à plus voir, qu'on appelle les petits microplastiques, qui eux sont un peu toutes les fibres qu'on va de nos vêtements par exemple, qui polluent énormément. Et effectivement, après ça, on commence à estimer la présence des nanoplastiques qui sont eux inférieurs à un micromètre, donc qui sont de l'ordre du nanomètre, nanoplastique. Et ceux-là, en fait, on connaît pas encore vraiment leur distribution dans les océans, mais il semblerait qu'on en ait énormément, et que ça soit peut-être même en masse des choses qui sont assez équivalentes aux grands microplastiques.
Oui, c'est ça, c'est que là, on évoque différentes tailles, mais donc aussi de différentes formes, des fragments, des fibres, des billes, Jean-François Guiglione.
Tout à fait. Quand on va se retrouver en mer, partout où on échantillonne, ou que ça soit dans les fleuves ou en mer, on retrouve ces petits plastiques qui sont vraiment partout et ils ont des formes, des tailles complètement différentes. Et on ne connaît même pas l'histoire de ces plastiques parce que, comme je vous le disais, ça peut durer des dizaines d'années et il faut des analyses très très fines pour comprendre ces microplastiques. Et il faut savoir en fait que on a des milliers, on a à peu près, d'après les estimations récentes, c'est 5300 formules de plastique différentes dans le commerce. Et ça, ces 5300 formules, en fait, elles peuvent se transformer en microplastiques qui vont finir dans les océans.
Oui, François Galgani, quand on parle de microplastiques, en termes de niveau composition, le plastique, c'est pas seulement un polymère, c'est aussi tous les additifs à l'intérieur.
Absolument. Donc, il y a tout un ensemble de familles de composés qu'on utilise comme plastifiants, comme assouplissants, comme colorants également. Et donc, évidemment, ça rend complexe la compréhension, si vous voulez, des mécanismes de toxicité et autres, parce qu'il y a des produits qui sont toxiques, il y en a qui le sont moins. Tous les plastiques ne sont pas pareils, et donc ont des comportements très, très, très différents. Par exemple, le bisphénol, qui a fait l'objet de tout un ensemble de discussions pendant des années, sur notamment les plastiques alimentaires, c'était un petit peu l'objet de la discussion qu'il y avait en début d'émission, bien en fait, ça représente que quelques pourcents des plastiques, tous, ne contiennent pas de bisphénol. Alors, il a été accusé, comment dire, de toxicité. La réglementation, finalement, est assez tolérante de ce point de vue-là, et surtout, ils sont remplacés actuellement par des produits qui sont un petit peu différents. Donc, vous voyez, il y a un ensemble de préoccupations autour de ces composés, mais en tout cas, ce qu'il reste, si vous voulez, c'est qu'il y en a qui sont toxiques et qu'il faut bien comprendre les mécanismes de toxicité.
Alors Jean-François Guiglione, par rapport à tous ces microplastiques qu'on trouve dans les océans, est-ce qu'on arrive à estimer précisément la quantité de microplastiques présents dans nos océans ?
Alors, les scientifiques essayent d'estimer ça, c'est pas forcément très simple. Ce qu'on arrive très bien à faire, c'est estimer les plastiques qui sont en surface. On estime qu'on a à peu près 30 000 tonnes de microplastiques qui sont à la surface. Après, ça parle pas beaucoup ces chiffres-là, mais pour vous dire que c'est vraiment des quantités qui sont énormes. Et aussi, c'est pas trop enfin, il faut faire une différence entre la masse et le nombre de plastiques qu'on va retrouver. Et là, en fait, on est à des milliers de morceaux de plastique qu'on va retrouver dans une zone d'eau. Et du coup, c'est plutôt ça qui va nous intéresser. C'est le nombre de particules qu'on va retrouver par litre qui va, lui, influencer beaucoup, en fait, la faune et la flore qui va être soumise à ces plastiques.
François Galgani, hein, le milieu aquatique est le réceptacle final des déchets des microplastiques, mais la pollution de surface de ces particules qui flottent à la surface des océans, ça ce n'est que la partie émergée de l'iceberg.
Absolument, on estime que ça représente quelques pourcents seulement, l'essentiel maintenant des plastiques et des microplastiques. On pense qu'ils sont surtout sur les fonds marins et parfois même à de très très grandes profondeurs. Et a priori, quand on regarde l'évolution dans le temps, on s'aperçoit que c'est le compartiment, les fonds marins, où les quantités augmentent régulièrement depuis de quelques dizaines d'années, si vous voulez. Et c'est ce qu'on appelle un petit peu un puits, c'est-à-dire que c'est là que vont se retrouver tous les microplastiques à terme, avec tout un ensemble d'effets sur la faune localement et autres. Voilà.
On a parlé des sources de ces microplastiques, des bouteilles ou des sacs qui flottent dans l'eau et qui se dégradent. Mais pas seulement, il y a d'autres sources également qu'on peut citer, Jean-François Guiglione.
Essentiellement, ce qu'on va trouver dans l'environnement, et c'est là qu'on peut se dire qu'on peut tout de suite trouver des solutions, ça va être beaucoup d'emballages et beaucoup de plastique à usage unique. Et c'est intéressant ça parce que, en faisant ce constat, on sait aussi que la production mondiale de plastique, il y a 40% qui est utilisée pour cet emballage. Donc ça veut dire que si on enlève les emballages, comme c'est prévu d'ici 2040 avec les nouvelles directives, on enlève déjà 40% du problème. Et ça, c'est important que les scientifiques travaillent aussi avec le gouvernement pour qu'on puisse ici dire ce qu'on voit sur le terrain, c'est essentiellement des produits, des plastiques à usage unique et des emballages. C'est là-dessus qu'il faut vraiment travailler aujourd'hui.
Alors là, on parle des plastiques à usage unique, mais j'ai aussi lu que les pneus de voiture rejettent des microplastiques qui sont transportés jusqu'aux océans et que même aussi faire tourner une machine à laver, avec des vêtements en fibres synthétiques, c'est à peu près 2 milliers de microfibres de plastique qui peuvent finir dans les océans. François Galgani.
Oui, absolument. Il y a également les peintures de navires qui se fragmentent et qui libèrent des microplastiques. Donc, il y a tout un ensemble de sources. C'est complexe parce que les voies de transport et dans l'environnement, si vous voulez, sont pas très très bien comprises. On sait, par exemple, que les particules de pneus sont transportées par l'atmosphère jusque dans le bassin arctique. On les retrouve même dans les fonds du bassin arctique, vous voyez. Et donc, c'est assez difficile parce que sur les flux, on n'a pas beaucoup d'informations. Sur les quantités, ce sont des approximations. Et sur la diversité de ces sources, si vous voulez, c'est très complexe. Et donc, du coup, on n'a pas une maîtrise complète, si vous voulez, du cycle du plastique dans l'environnement, quoi.
Alors, on parle de cette omniprésence de ces microplastiques qui sont partout, des océans jusqu'au corps humain. Parce que là, on voit une multiplication d'études scientifiques qui montrent la présence de ces microplastiques dans de nombreux organes, Jean-François Guiglione.
Oui, il y a de plus en plus de de publications en fait qui montrent effectivement qu'on a des plastiques. Alors c'est souvent des tout petits plastiques. Hein. Je vous parlais des petits plastiques tout à l'heure qui sont de la taille de quelques centaines de microns, voire dizaines de microns, voire les nanoplastiques. Aujourd'hui, on se rend compte en fait qu'on peut en trouver dans nos poumons, dans le foie, la rate, le rein, et qu'on arrive à estimer en fait aussi que on en a trouvé. Enfin, récemment là, on en a trouvé dans le lait maternel, dans le sang. C'est des revues aujourd'hui qui sont assez controversées au niveau de la science. On est vraiment aux limites de détection de nos machines et aux limites de détection de la contamination qu'on peut avoir simplement dans l'air quand on est en train d'analyser. Et là, on a un problème méthodologique. Vous voyez que, par exemple, les vêtements qu'on porte sur nous sont bourrés de fibres synthétiques, et ces fibres synthétiques peuvent contaminer nos échantillons. Donc aujourd'hui, on a un faisceau de preuves qui nous montre que effectivement, c'est en train de rentrer. C'est rentré dans le corps humain, mais aujourd'hui on a encore du mal à savoir surtout la dose qui est rentrée vraiment. Et quand on regarde en fait le risque, il faut à la fois prendre en compte le fait qu'il y a de la présence. Est-ce que c'est important ou est-ce que c'est important? Il faut qu'on sache si c'est un danger ensuite pour l'homme, parce que le fait qu'on voit des plastiques dans l'estomac ou dans différents organes, certes ça nous alerte parce qu'on se dit oula, est-ce qu'il y a un risque? Et là aujourd'hui en fait, la science malheureusement elle ne sait pas répondre à cette question du danger. Est-ce qu'il y a vraiment une toxicité pour l'homme qui est apportée par ces morceaux de plastique?
Les risques et les dangers, on en parle dans quelques instants.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
16h17 sur France Culture avec François Galgani et Jean-François Guiglione. Nous parlons de microplastique. Nous venons de voir l'importance de cette contamination que l'on peut qualifier d'omniprésente. En 2021, une étude parue dans Environmental Science and Technology Letters. Cette étude estime que les adultes ingèrent entre 39 000 et 52 000 particules de microplastique par an. Les bébés, c'est plus d'un million par an. Jean-François Guiglione, comment ces microplastiques finissent-ils dans notre corps?
Alors déjà, au niveau de ces estimations, on a entendu pas mal d'estimations qui en fait regroupent un peu toutes les erreurs qu'on peut avoir dans les publications, parce qu'on donne des échelles. On sait à peu près les quantités qu'on a dans le corps, mais on le sait pas vraiment. Et donc du coup, ça peut donner des chiffres qui sont vraiment alarmants. Aujourd'hui, il faut les relativiser. On entend parler de 5 grammes d'ingestion par semaine, l'équivalent d'une carte de crédit. Ça, c'est évidemment abusif. Et ça montre quelque part plutôt les erreurs des estimations aujourd'hui, à mon avis. Donc évidemment, on mange pas une carte de crédit par semaine. Par contre, c'est clair que ça prouve que ces plastiques ils sont présents dans nos organes. Alors comment ils y arrivent? Simplement, quand on a une barquette de viande qui est en plastique, évidemment, il va y avoir du transfert de plastique. On en trouve dans les bouteilles en plastique. Il y a des études qui ont montré sur 11 marques différentes que 93% de l'eau des bouteilles est polluée. On va en trouver dans nos crevettes aussi, dans notre alimentation, dans le sel. Et ce qui fait que, au final, il y a à la fois l'ingestion directe, c'est-à-dire j'achète un produit et finalement, il y a du plastique dedans, et l'ingestion indirecte qui vient des animaux qui eux-mêmes en fait ont accumulé ces plastiques dans leur tissu.
François Galgani, justement, ces microplastiques sont désormais intégrés à tous les niveaux de la chaîne alimentaire?
Alors en fait, c'est assez complexe, si vous voulez. Pour les plus gros microplastiques, ils passent pas les barrières intestinales, simplement parce que la taille des cellules ne permet pas des fragments qui sont trop gros, si vous voulez, de rentrer dans la circulation. Et donc globalement, une proie, quand elle ingère un microplastique, au bout de quelques heures pour les espèces du plancton, quelques jours pour les mollusques ou quelques semaines pour les tortues, pour les gros déchets, si vous voulez, et ces plastiques vont être excrétés. Et donc, il y a peu de chances que ce soit transféré dans l'intestin alimentaire. Par contre, comme ça a été dit tout à l'heure, le problème se pose pour les petits microplastiques et surtout les nanoplastiques, dont on sait maintenant qu'ils peuvent passer les barrières intestinales. Et là, on a très, très peu d'informations. Un nanoplastique, par exemple, on peut le fabriquer, c'est facile. On broie, si vous voulez, un morceau de plastique à froid. On peut le tester, on peut tester sa toxicité. Ça se fait régulièrement avant la mise sur le marché des nanoparticules et autres. Mais par contre, une fois que c'est dans l'environnement, les comportements sont très complexes. Donc, ça forme des colloïdes, des agrégats, ça se mélange à la matière organique et autres. Et donc, on n'arrive pas, techniquement, si vous voulez, à en faire la mesure et aller directement les détecter. Alors, on a des arguments indirects sur leur présence, il n'y a aucun doute là-dessus, si vous voulez, mais on n'arrive pas à quantifier. Et par contre, lorsqu'ils sont ingérés, on sait, ça a été montré en laboratoire, si vous voulez, que ces nanoparticules peuvent être de petites tailles, en tout cas, peuvent être passées dans les tissus. Et donc là, les proies qui les ingèrent sont susceptibles de les accumuler, et donc les prédateurs vont les accumuler également, et là, à ce moment-là, il peut y avoir un transfert dans la chaîne alimentaire. Mais on n'a pas l'ampleur encore du phénomène, et là, ça demandera quelques années avant qu'on y arrive.
Jean-François Guiglione ?
Oui.
Oui, oui, pour compléter ce que venait de dire justement François Galgani sur ces nanoplastiques et leur taille et leur possibilité justement de passer la barrière intestinale.
Oui, il y a des études en fait qui ont montré que effectivement il y a du transfert dans la chaîne trophique, et comme le disait François, ce transfert il ne se fait que au niveau des tout petits plastiques. Donc c'est vraiment au niveau des nanoplastiques. Il y a des, par exemple, un transfert de la moule vers le crabe, ça a pu être démontré, mais ça a pu être démontré également entre des algues, des herbivores, les daphnés, et puis des poissons, des carpes, voilà. Donc on arrive à montrer en fait qu'on a possibilité d'avoir une accumulation de ces nanoplastiques le long de la chaîne alimentaire. Mais c'est pas des, il faut voir que les plastiques sont pas des polluants classiques, en fait. C'est des polluants qui sont un tout petit peu solides par rapport aux polluants liquides qu'on a l'habitude de voir. Et donc, du coup, dans les laboratoires, on arrive à montrer ça. Mais ensuite, quand on va essayer de montrer ça en milieu naturel, là, ça devient beaucoup plus compliqué. Donc, quelque part, c'est vrai qu'on voit dans cette émission un peu les limites de notre capacité à répondre à toutes ces questions. Il semble qu'il y ait un faisceau de preuves qui aille dans ce sens, en fait, qu'on a un transfert dans la chaîne alimentaire des plus petits. Maintenant, c'est très difficile de le voir vraiment en milieu naturel.
Alors, côté alimentation, comme on vient de l'évoquer, les microplastiques ont été détectés un peu partout. Le lait, les sodas, les fruits et les légumes, les fruits de mer, mais aussi dans l'eau potable. Et c'est le sujet du reportage du jour. Bonjour Noémie Naguet de Saint-Vulfran.
Bonjour Natacha.
Alors, vous êtes partie à la rencontre d'un chercheur, de Rachid Driss.
Oui, il est maître de conférence au laboratoire Eau, Environnement et Systèmes Urbains de l'Université Paris-Est-Créteil. Son laboratoire s'intéresse aux microplastiques depuis 10 ans maintenant. Et on sait que ces particules sont présentes en grande quantité dans les eaux de rivière, notamment dans la Marne, la Seine ou encore l'Oise. Mais le problème, c'est que ce sont ces eaux-là qui sont prélevées par les usines de potabilisation avant d'atterrir dans nos robinets. Le syndicat des eaux d'Île-de-France s'est donc intéressé à cette problématique et Rachid Driss a étudié l'efficacité de ces usines pour filtrer et diminuer cette pollution aux microplastiques. Pour ça, il a analysé la quantité de microplastiques présentes dans les eaux en entrée d'usine d'abord et il l'a ensuite comparé avec ce qui reste en sortie d'usine, c'est-à-dire dans l'eau potable.
Les échantillons d'eau sont produits dans les usines du CEDIF. Ce qui va se faire, c'est qu'ils vont être filtrés parce que pour analyser les microplastiques dans une eau, on ne va pas se contenter d'un litre ou de 2 litres, on va avoir besoin de 500 litres. Pour transporter 500 litres vers le laboratoire, c'est un peu compliqué. Donc ce qu'on fait, c'est que dans les usines, on va utiliser des filtres métalliques avec un maillage de 10 micromètres et on va faire passer 500 litres à travers ces filtres métalliques. C'est des filtres qui font 47 mm. Et ces filtres, on va les recevoir au niveau du laboratoire. Alors une fois qu'on a reçu ce filtre, on va d'abord récupérer tout ce qu'il y a de déposé sur ce filtre. Des particules naturelles, minérales, organiques, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a aussi de l'eau en entrée d'usine, donc de l'eau pas propre. Mais aussi des microplastiques, tout ce qui est particulière finalement. Comment on fait concrètement ? On récupère ce filtre qu'on va prendre avec une pince. Hop. Ensuite, on va prendre un bécher et on va rincer les microplastiques et les particules qui sont déposées sur ce filtre afin qu'on récupère dans le bécher. Donc maintenant, tout ce qui était posé sur un filtre est dans une solution liquide. On a de l'eau remplie de particules. Notre eau, comme on a aussi de l'eau de rivière, elle va être riche en composés naturels. Et donc, notre objectif, c'est d'isoler les microplastiques et de les séparer des autres particules. Pour ce faire, on va faire d'abord une séparation densimétrique. Donc, on va mettre notre échantillon dans une solution dense. Les microplastiques vont flotter, les particules minérales, comme les sables, vont décanter. Donc, nous, ce qu'on récupère, c'est ce qui flotte, c'est ce qui est en surface. Ensuite, ce surnageant-là, on va le traiter à l'eau oxygénée, ce qui va dégrader la matière organique naturelle. Par exemple, ça peut même être des brindilles de feuilles ou autres, on va les éliminer. Et à la fin, on va se retrouver avec une solution dans laquelle il y a essentiellement des microplastiques. Cette solution-là, on va la filtrer sur un petit filtre, qu'on va ensuite emmener dans une autre salle pour faire une analyse IRTF infrarouge à transformer de Fourier. Là, on était dans la salle de préparation et maintenant, on va passer à la salle d'analyse. Alors maintenant, maintenant, nous sommes dans la salle d'analyse où se trouve l'appareil qu'on va utiliser pour identifier et quantifier les microplastiques. Le premier filtre, c'était un filtre métallique. Maintenant, c'est un filtre en alumine. Cette matière a l'avantage d'être transparente à l'infrarouge. On va déposer notre filtre au niveau de notre microscope IRTF et ce dernier va venir analyser l'ensemble des particules qui sont déposées sur le filtre. Le principe un peu simplifié de la méthode, c'est qu'on va avoir un faisceau infrarouge qui va traverser la particule et qui va donner un signal, ce qu'on appelle un spectre, caractéristique de la matière dont est composée la particule. Par exemple, le polyéthylène va avoir un spectre très spécifique, le polypropylène va avoir un spectre très spécifique, et donc, juste en regardant les spectres, on va pouvoir savoir si on a affaire à une particule de polyéthylène, de polypropylène, donc à du plastique, ou même à une particule qui n'est pas du plastique.
Alors, comment ça marche concrètement ?
La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre de l'azote liquide au niveau du détecteur de la machine, parce que la machine ne fonctionne pas à température ambiante, elle chauffe très vite, et donc l'azote liquide va permettre de la refroidir. Ensuite, on va placer notre filtre sur la platine, et cette platine-là va bouger jusqu'à ce que l'ensemble du filtre soit cartographié par le détecteur. Première étape, on va prendre une photo de ce filtre grâce au microscope. Ainsi, on va voir tout ce qui est déposé sur le filtre. Et ensuite, on va faire l'analyse infrarouge sur l'ensemble du filtre. Les résultats sortis, c'est des spectres. Un seul filtre va produire jusqu'à 200 000 spectres. Et ensuite, on va utiliser des algorithmes automatisés pour repérer où sont les microplastiques, combien il y en a, quelle est leur nature et quelle est leur taille. Généralement, on peut faire en une heure un filtre. C'est pas quantitatif. Alors c'est vrai que j'ai parlé un peu d'intensité de pic, donc ça peut prêter à confusion, mais l'intensité des pics, ça permet juste d'identifier de quel polymère il s'agit. Sur la partie image, ce qui est quantitatif, c'est juste le nombre, donc on fait un dénombrement. Comme je vous avais dit au début, on a filtré 500 litres, donc on connaît notre volume d'eau, et donc à la fin, grâce à nos spectres, on va savoir quelle est la quantité de microplastique par polymère qu'il y a dans ce volume d'eau-là.
Et là, en l'occurrence, quel type de microparticules on trouve dans les échantillons d'eau potable que vous avez analysés ?
Alors déjà, avant d'analyser l'eau potable, on a analysé l'entrée de l'usine. On a trouvé essentiellement du polyéthylène terephthalate qui est souvent utilisé dans les bouteilles, par exemple, mais aussi dans les polaires. En deuxième place, on retrouve le PP polypropylène et le PE polyéthylène qui sont dans les emballages, notamment dans les sachets. Ça, c'est en entrée d'usine. Après le traitement, on voit une diminution claire de tous ces microplastiques-là. Il n'y a quasiment plus de PET, et ce qui reste, ça va être plutôt le PP et le PE. Il y a des très bons taux d'abattement, c'est-à-dire que plus que 99%, 99,5% des microplastiques qui sont entrés sont abattus et ne sont pas retrouvés en sortie. En consommant ces taux-là, en une année, on consommerait environ 200 microplastiques, de taille entre 25 et 200 micromètres. Or, on a fait des comparaisons aussi parce qu'on étudie d'autres types d'échantillons, d'autres milieux, pas que l'eau potable. Et on a vu par exemple que rien qu'avec l'air environnant, au moment où on va s'asseoir, on va avoir des microplastiques qui vont tomber au niveau de notre assiette. Et rien que ça, ça va faire qu'on va consommer de 3000 à 4000 microplastiques par an. L'eau potable reste effectivement une voie très mineure de l'exposition à la contamination microplastique. Nos études sont assez importantes parce que justement elles permettent de fournir des niveaux d'exposition. Pour que les études sanitaires aient un sens, il faut mettre à côté des niveaux d'exposition, savoir à quel taux les humains vont être exposés, pour ensuite pouvoir en déduire à ces taux-là est-ce qu'il y a un risque sanitaire ou pas.
Merci Noémie Maguet de Saint-Vulfranc pour ce reportage et pour cette visite. Une réaction à ce qu'on vient d'entendre, François Galgani ?
Alors, moi je trouve que c'est un reportage qui est très bien fait, qui est assez détaillé et qui explique bien justement la partition qu'il peut y avoir et puis quels sont les risques d'exposition. Malheureusement, il y a l'eau, il y a la bière, il y a le sel, il y a l'alimentation, il y a les poissons, si vous voulez. Et donc, c'est la somme de l'ensemble des expositions qui a un sens sur le plan toxicologique. Et là, par contre, on n'a pas beaucoup d'informations et on n'a pas l'ampleur, si vous voulez, du phénomène. Donc, il est hors de question d'incriminer les distributeurs d'eau. Mais par contre, si vous voulez, considérer le risque général qu'il y a d'ingestion des microplastiques, surtout des petites particules, là, je pense que c'est quand même assez important, quoi.
Jean-François Guiglione, une réaction, vous aussi ?
Oui, j'aime bien le chiffre en fait qu'il a donné. Au final, il arrive à trouver 200 microparticules par an. Et il faut savoir que les études qui ont été faites sur les bouteilles en plastique, elles, c'est 10 microparticules par litre. Donc vous imaginez par an, ça, c'est largement plus en fait. Donc il y a plusieurs études qui ont effectivement montré ça, et ça met l'accent en fait sur cette histoire de bouteilles en plastique qui aujourd'hui n'est vraiment pas nécessaire en France, mais on se rend bien compte en fait que là il y a un certain conditionnement en fait des Français à boire les bouteilles de l'eau en bouteille, alors que ça a pas vraiment de sens, sachant que l'eau elle est vraiment potable au robinet. Et ces bouteilles en plastique, on sait que du coup, quand on va boire dans l'eau en bouteille, on va ingérer beaucoup plus de microparticules de plastique que ce qu'on va prendre dans le robinet.
Alors, on évoquait du bout du doigt les risques pour la santé humaine. Jean-François Guiglione, vous disiez d'ailleurs que vous parliez des limites pour mesurer les risques pour la santé humaine. Pourquoi est-ce si difficile d'évaluer ces risques, justement?
Eh ben, vous l'avez compris, en fait, déjà au départ, c'est pas facile de voir l'exposition, c'est-à-dire la quantité de microplastique, de microparticules plastiques qu'on va ingérer. Ensuite, en fait, on fait une analyse chimique qui est assez simple, comme ça a été présenté par Rachid Riss. Là, on fait une analyse où on veut regarder le type de polymère. Mais faut vous rappeler, en fait, que la définition du plastique, c'est le polymère, donc polyéthylène, polypropylène, polyéthylène terephthalate, comme vous avez entendu dans l'émission. Mais il y a aussi tous ces additifs dont on a parlé tout à l'heure. Et ceux-là, ils sont beaucoup plus difficiles à doser parce que, comme je vous l'ai dit, en fait, on est face à des milliers de formules de plastique différents dans le commerce avec tous ces additifs qui sont à l'intérieur. Donc ça, c'est l'exposition déjà. À quoi on est exposé? Le deuxième aspect, en fait, c'est le danger. Avant de pouvoir déterminer s'il y a un risque, il faut qu'on voit si c'est dangereux, en fait, si cette quantité de plastique qu'on ingère est dangereuse. Et pour ça, en fait, la toxicité, elle est facile à étudier au niveau des organismes de laboratoire. Mais par contre, c'est beaucoup plus difficile au niveau humain. Parce qu'en plus, quand on fait un travail sur des animaux de laboratoire, ou au niveau des outils, des modèles de laboratoire, là, on peut mettre ces animaux seulement en présence du plastique. Mais la réalité, en fait, c'est que l'homme, il est soumis à plein d'éléments toxiques autour de lui. Et c'est très difficile de dire, la personne est tombée malade ou a eu une perturbation au niveau hormonal à cause des plastiques. Donc la cause, elle est pas forcément évidente à montrer, en fait, au niveau des humains.
Oui, c'est-à-dire que c'est des résultats qui ne peuvent pas être extrapolables comme ça à l'humain. Les résultats qu'on obtient au laboratoire, par exemple.
Oui, tout à fait. On se rend compte en fait qu'il y a on voit bien qu'on a une exposition énorme à ces plastiques. Ça a été maintenant démontré. On voit qu'il y a des dangers au niveau de plein d'animaux. On a pu montrer ça au niveau moléculaire, au niveau des organes, au niveau des individus, des populations de microalgues, de bivalves, de poissons, de tortues, des mammifères, des coraux. Donc beaucoup d'animaux ont été étudiés. Maintenant, la transposition à l'homme, on se permet pas de la faire, mais certainement, en fait, il doit certainement y avoir un impact aussi, mais qui est très difficile à mesurer.
Alors vous l'avez dit, la présence de ces particules dans notre organisme, sont des résultats à prendre avec des pincettes. Néanmoins, ça pose énormément de questions. Est-ce que l'organisme peut-il éliminer ces microplastiques ou ces derniers s'accumulent-ils au cours du temps? Peuvent-ils passer la barrière hémato-encéphalique et atteindre le cerveau? Enfin, tout ça, c'est des questions qui restent quand même en suspens, François Galgani.
Alors, moi, je pense qu'il y a une vraie question qui se pose, c'est que ce qu'on comprend pas, si vous voulez, c'est que l'organisme, il est fait pour, en tout cas l'humain, il est fait pour se protéger du milieu extérieur. Donc on a des barrières intestinales, la nature a inventé, si vous voulez, la digestion qui permet de casser des molécules de façon à ce qu'elles soient réduites à de petites tailles et qu'elles puissent passer dans la circulation et s'accumuler. Et en fait, pour le plastique, ce sont des particules physiques, comme ça a été dit, et les particules physiques qui passent les barrières intestinales, ça pose un problème de fond, si vous voulez. Donc il y a des publications qui existent sur la présence dans le placenta, sur la présence dans certains organes, dans le sang et autres, si vous voulez, mais malgré tout, on comprend pas très très bien pourquoi des micro-particules de plastique rentreraient dans le corps et que des sédiments qui sont ingérés par des concombres de mer ou des oursins, par exemple, eux ne rentreraient pas, même s'ils sont de même taille, si vous voulez. Et donc, il y a de vraies questions sur le principe même de l'incorporation. Donc, c'est vrai qu'en laboratoire, on peut montrer que les tissus intègrent des nanoparticules parce qu'elles sont suffisamment petites, et après, leur devenir, évidemment, pose question et sur les effets. Donc, on n'a pas les doses, on ne sait pas quelles sont les quantités, on ne sait pas quelle est la partition, c'est-à-dire dans quels organes ils vont s'accumuler. Par contre, il y a des preuves formelles qui vont aller dans le cerveau, par exemple, pour les plus petites particules et autres, où là, les effets sont tout à fait possibles.
Jean-François Guiglione, pour compléter ce que vient de dire François Galgani.
Oui, c'est marrant parce qu'enfin ça fait une dizaine d'années que moi je travaille sur ces plastiques et on va de surprise en surprise. On s'attendait vraiment pas à trouver en fait des plastiques qui soient si petits qu'on soit capable de les doser en fait et qui passent les barrières les barrières de nos cellules. Et ça c'est quelque part évidemment ça fait peur et on se dit bon bah ok finalement c'est pas seulement les animaux marins ou les oiseaux ou les mammifères qui sont touchés par ce plastique. Maintenant ça nous revient. Et il y a vraiment un besoin aujourd'hui dans les recherches actuelles d'aller plus loin pour vraiment réussir à estimer ce danger. Est-ce que c'est vraiment dangereux et à quel âge, par exemple, on imagine très bien en fait que on voit bien que nos enfants sont entourés de plastique. Parce que le plastique c'est quand même quelque chose de génial, hein. C'est quelque chose de léger, qui est capable de prendre toutes les formes, qui est bon marché. Bon, l'inconvénient c'est qu'il est durable et que du coup, en fait, le problème c'est qu'il va durer beaucoup dans l'environnement s'il s'y retrouve à la fin. Et comme il est bon marché, en fait, les enfants grandissent vite et donc du coup ils sont entourés de plastique. Et on se pose vraiment des questions de savoir est-ce que ça touche tout de suite quand on entend parler du lait maternel qui est déjà contaminé par le plastique. Ben forcément, ça fait peur. Mais je pense qu'il faut relativiser cette peur parce qu'on est vraiment au début des connaissances de ça. Et c'est vrai que tout de suite, dès qu'on voit le lait maternel qui est touché par des plastiques, c'est très médiatisé. Maintenant, il faut prendre des pincettes avec ça parce qu'on n'a vraiment aucune idée en fait de l'effet que ça peut avoir derrière.
Spender, but ain't never got no cash. The clothes he wears are second to none. He's a jack of all trades and a master of none. Agrees with everything he knows nothing about, so he doesn't feel left out. Secondary all the things in life he really wants. Being in is his thing, so he's gonna keep up his front.
Plastic Man de The Temptation à 16h38 sur France Culture, car nous parlons de l'omniprésence des microplastiques avec François Galgani, océanographe responsable de projet à l'IFREMER, l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, et avec Jean-François Guiglione, directeur de recherche CNRS en écotoxicologie microbienne marine au laboratoire d'océanographie microbienne, le LOMIC. Alors nous venons de parler dans un premier temps de la présence de ces particules dans notre corps et de la difficulté de mesurer ses effets sur la santé humaine. Mais qu'en est-il de la faune marine, François Galgani? On a tous en tête ces images assez terribles d'animaux marins qui s'étouffent avec des sacs plastiques. Mais que connaît-on des effets des microplastiques sur les animaux marins?
Alors, en fait, les microplastiques, ils sont responsables principalement, enfin, ils sont la cause, ils sont ingérés par différentes espèces du milieu marin. Et puis, je pense qu'il y a un aspect... Alors, ils peuvent relarguer également des produits chimiques, ça a été montré, si vous voulez. Mais je pense qu'il y a un aspect qui est assez peu abordé, assez mal connu, mais qui est essentiel sur le plan environnemental. C'est le fait que ces microplastiques, il y en a quand même à peu près 20 000 milliards actuellement à la surface des océans. Eh bien, en fait, ils voyagent sur des milliers de kilomètres. Et lorsqu'ils voyagent, ils peuvent, servir de radeau à certaines espèces. Alors, des unicellulaires pour les microplastiques, mais ça peut être des espèces pathogènes, ça peut être des espèces toxiques, ou disons plus généralement des espèces à risque. Et lorsque ces espèces arrivent, par exemple, d'un continent à l'autre, ben à ce moment-là, il y a tout un ensemble de transformations qui sont possibles, avec des impacts et autres. Et ça, c'est quelque chose qu'on connaît très, 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 très mal. Donc, en termes d'impact, je dirais d'abord que certaines espèces sont plus sensibles que d'autres. Par exemple, les oiseaux, certaines familles d'oiseaux marins sont capables de piquer les microplastiques à la surface des océans, simplement parce qu'ils ont une couleur attrayante, sont capables de les garder dans l'estomac, avec des risques et des mortalités qui peuvent être plus importants. En général, ce sont des individus et pas les populations qui sont touchées. Et d'autres espèces, par contre, ne vont pas les ingérer. Mais par contre, ce problème de transport d'espèces sur de longues distances est une vraie question scientifique et on n'a pas beaucoup de recul là-dessus.
Oui, c'est-à-dire que historiquement, la dispersion des microbes dans les océans, ça s'est fait par des branches ou des noix de coco ou des coques de bateau. Mais là, avec ces centaines de milliards de fragments qui dérivent sur l'ensemble des océans, on voit une dispersion beaucoup plus large. Et donc ça représente également un risque pour la biodiversité, Jean-François Guiglione.
Oui, un risque pour la biodiversité parce que évidemment, on voit ces milliards de milliers de milliards en fait de microparticules qui flottent sur l'océan. Effectivement, comme le disait François, il y a cette migration d'espèces parce que c'est vraiment des radeaux qui vont se balader partout dans le monde. Là, faut bien se rendre compte que l'océan, lui, il a pas de frontières, donc. Ça va pas s'arrêter aux frontières, comme on a pu le voir par ailleurs. Et où il y a aussi une chose qui est importante sur ces plastiques, c'est qu'ils vont avoir des micro-organismes qui potentiellement peuvent être pathogènes. Et ça, on a pu le montrer en fait sur différents microplastiques qu'on a retrouvés très au large. On a retrouvé des bactéries pathogènes et aujourd'hui se pose la question des virus pathogènes qui pourraient aussi être transportés. Alors, on pense tout de suite, on parle beaucoup de l'océan, hein, mais il y a aussi un transport des tout petits microplastiques par l'atmosphère, des microplastiques qui font de la taille de 10 micromètres, 100 micromètres maximum. Et ceux-là, en fait, ils peuvent transporter des maladies. Et aujourd'hui, encore une fois, on ne sait pas grand-chose là-dessus, à part montrer qu'ils sont présents. On va pas imaginer tout de suite des pandémies qui seraient dues à ces transports par les plastiques, mais c'est pas négligeable en fait.
François Galgani, sur ces virus qui voyagent en radeau à dos de microplastiques. Ah, François Galgani, on vous a perdu.
Oui,
ah, si vous êtes là.
Non, je suis là, je vous écoute.
Très bien. Oui, non, je voulais vous faire réagir à ce que venait de dire Jean-François Guiglione sur vous parliez de microbes qui voyagent sur des radeaux de microplastiques là concernant ces virus.
Oui, absolument. Donc il y a une étude qui avait été faite sur les particules qui venaient des poussières du Sahara et il a été montré qu'elles étaient capables de transporter des dizaines de pathogènes. Et donc, la question se pose également sur ces fibres en mer, si vous voulez, et puis également dans l'atmosphère. Donc, c'est des très très longues distances. Il y a des colonisations, par exemple, du continent antarctique par des fibres qui ont été transportées par l'atmosphère. On sait même que des algues qui sont à la surface des océans simplement avec les embruns peuvent voyager sur des centaines de kilomètres à terre, ça a été montré, si vous voulez. Et donc, forcément, plus il y a de vecteurs, et notamment les microplastiques, évidemment, plus il y a de risques de transport comme ça, avec de vraies questions sur les altérations. Par contre, là où il faut faire attention, c'est que même si un plastique peut favoriser la dispersion au sortir d'une station d'épuration ou dans une zone d'élevage de production de coquillages ou des zones d'aquaculture, les virus pathogènes pour l'homme, en général, ne survivent pas, si vous voulez, même d'une manière générale, ne survivent pas en mer. Et donc, ça peut favoriser leur dispersion pendant quelques dizaines de minutes. La question s'est posée, par exemple, pour le Covid, mais en aucun cas, si vous voulez, le plastique est responsable de leur, de contamination. Il faut faire très attention. Ça touche surtout des espèces qui sont toxiques ou pathogènes pour les espèces marines.
Oui, pour continuer à propos des dangers pour les animaux marins, vous, François Galgani, votre institut Livre-Mer a observé, étudier les animaux marins in vivo exposés à ces particules. Qu'est-ce qui ressort justement de ces observations dans l'environnement naturel ?
Alors, donc, sur la gestion, ça fait aucun doute, si vous voulez. Il y a des questions qui sont posées sur les risques sur la consommation. C'est ce qu'on peut les retrouver dans nos assiettes et autres. On en a parlé tout à l'heure. Le risque est quand même très minime, si vous voulez, parce qu'il n'y a pas de gros transferts dans la chaîne alimentaire pour les microplastiques et autres. Il y a un impact physique également. Donc, il peut y avoir des blessures lorsqu'un animal du plancton ingère un microplastique et autres. Mais ce sont des épiphénomènes, si vous voulez. C'est pas la généralité. C'est pas une généralité. Le risque majeur. Alors, il y a également les contaminants qui pourraient être fixés sur les plastiques. Ce qu'il faut retenir, c'est que s'il y a des contaminants qui sont fixés sur des plastiques, c'est parce qu'il y a des contaminants dans l'eau et que le problème est un problème de pollution marine chimique, si vous voulez, avec le plastique qui joue simplement un rôle de vecteur et qui transporte ces polluants. Mais la solution, ça serait surtout d'abord de limiter les plastiques, c'est une chose, mais aussi de limiter la pollution. Et puis, il reste ce problème de transport d'espèces sur lequel on n'a pas beaucoup de recul, où là, par contre, il va falloir beaucoup travailler dans les années à venir.
Jean-François Guiglione, en préparant cette émission, moi, j'ai lu une étude qui montre que chez plusieurs animaux, de nombreuses données montrent que l'ingestion de certains microplastiques entraîne une dysbiose, hein, c'est-à-dire un déséquilibre du microbiote. Enfin, qu'en fait, les microplastiques ingérés auraient des conséquences justement sur la santé microbienne.
Oui, et ça c'est encore, comme le disait François, hein, c'est un épiphénomène, mais ça a été montré effectivement sur les. Il faut comprendre que sur les plastiques, à partir du moment où ils vont arriver dans l'environnement, ils vont pas rester propres comme on les voit nous. Ils vont être immédiatement colonisés par de la matière organique sur lesquelles vont s'installer des bactéries, en fait, des micro-organismes. Et ces micro-organismes, en fait, quand ils vont être ingérés par les animaux, ils vont pouvoir en fait s'installer effectivement dans le système digestif des animaux. Donc ça a été montré récemment. Maintenant, est-ce que le fait de changer son microbiome altéré par ces microplastiques a vraiment un effet très dangereux? Je pense que c'est certainement moins important en fait que ce transfert de ce transfert de pathogènes et ces migrations d'espèces qui aujourd'hui on connaît mal. D'un autre côté, pour revenir en fait sur les effets qui ont pu être observés sur les animaux, encore une fois en fait on a des images tout de suite des publications qu'il faut faire attention dans le sens où on utilise souvent des concentrations qui sont abusives par rapport à ce qu'on va retrouver dans l'environnement. Et donc effectivement, on peut voir des effets, mais des effets en fait qui sont vraiment dose dépendants. Vous comprenez en fait c'est-à-dire la concentration de plastique qu'on va mettre sur les animaux qu'on va étudier en laboratoire. Et donc ça c'est aujourd'hui un biais qu'il faut absolument mieux maîtriser dans les laboratoires pour vraiment voir les effets à des concentrations qui sont réelles. Néanmoins, en fait, on voit des effets à la fois au niveau moléculaire et cellulaire, donc au niveau des antioxydants, des systèmes immunitaires, au niveau des organes, on voit les intestins de poissons qui fonctionnent moins bien. Au niveau des individus, on peut voir du blanchiment de corail, de la mortalité de zooplancton ou des juvéniles de poissons. Et puis même au niveau des populations, et là, en fait, il y a certaines populations comme certains bivalves ou certains oursins, on voit une diminution de la fécondité ou une diminution du développement des larves. Tout ça, ça a été montré, mais encore une fois, montré en laboratoire, et pour l'instant, avec des doses qui sont trop importantes. Donc, il faut encore qu'on continue, en fait, à travailler dans nos laboratoires pour vraiment valider tous ces effets.
France Culture, la science CQFD, Natacha Trioux.
À 16h47 sur France Culture, nous parlons avec François Galgani et Jean-François Guiglione de la pollution aux microplastiques. Alors, quels sont les effets sur la santé? La question reste ouverte pour le moment. Une fois que l'on a dit tout ça, face à cette contamination totale aux microplastiques, que faire, Jean-François Guiglione?
Alors les solutions maintenant elles commencent à être connues parce qu'on commence à vraiment se poser les questions et savoir quelles sont les vraies bonnes solutions. Tout de suite quand on parle du plastique, on pense économie circulaire, c'est-à-dire que on a trois piliers dans cette économie circulaire: l'offre des industriels qui vont produire des produits, le gouvernement qui va donner l'autorisation de la mise sur le marché sur le produit. Donc ça c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, ça va être le consommateur. Et le troisième aspect, ça va être le recyclage. Et vous avez cette image d'économie circulaire, en fait, elle a été inventée quelque part par les industriels pour passer de l'économie linéaire, c'est-à-dire je prends des ressources, je fais un produit, je le consomme et je le jette, à quelque chose qui dit je le jette, mais en fait, je vais le recycler. Et aujourd'hui, en fait, on nous dit sans problème, allons-y, continuons à mettre. On peut mettre tous nos emballages, par exemple, dans la poubelle jaune. Tous les emballages, certes, mais en fait, malheureusement, on n'arrive pas à faire face à nos déchets et le recyclage aujourd'hui, notamment en France, on est très en retard. terre, on est à peu près à 14% ou 20% maximum de vraiment recyclés. Et ensuite, la plupart de nos déchets, ils vont partir soit en décharge, soit brûlés, incinérés, ou partir dans des pays en voie de développement. Donc là, aujourd'hui, on se rend compte que cette économie circulaire, elle est mise à mal et qu'il faut vraiment améliorer ce recyclage. Et quand on parlait tout à l'heure des additifs aussi, c'est aussi de l'offre des industriels. C'est eux, en fait, qui vont mettre les additifs pour faire leurs produits. Et là, il va falloir réguler beaucoup mieux, en fait, ces additifs qui sont mis dans les produits pour prouver vraiment leur innocuité. Parce que on a un mélange, en fait, de milliers de formules de plastique dans le commerce qui est très difficile de doser.
Oui, là, vous parlez justement de l'utilisation des additifs dans les plastiques.
Tout à fait, oui. On a, comme je disais, 5300 formules de plastique dans le commerce. Donc, vous imaginez, en fait, pour les institutions qui doivent légiférer sur la mise sur le marché de ces produits, c'est très difficile à tester, d'autant qu'on a autant de combinaisons. C'est des effets cocktails, je veux dire, c'est pas seulement un perturbateur endocrinien, c'est aussi quelque chose qui va arriver avec.
Alors, vous l'avez évoqué, hein, la France, un autre pays, hein, est le pays qui produit le plus de déchets plastiques dans la région méditerranée. Vous, François Galgani, vous travaillez justement pour une nouvelle convention sur les microplastiques. Ce sera la question de la fin. On arrive malheureusement à la fin de cette émission, mais parlez-nous justement de ce projet.
Alors, en fait, ce qui est intéressant, c'est que d'abord, ce qui est nécessaire, c'est que l'océan, il appartient à tout le monde et c'est pas un seul pays qui peut régler le problème. Et l'environnement, c'est la même chose, qu'il soit terrestre, l'atmosphère et autres. Et donc, avoir une convention, ça permet de coordonner l'ensemble des travaux. Il y a une volonté de pratiquement tous les pays, si vous voulez, de limiter la pollution plastique. Par contre, il y a des différences d'intention sur les modalités entre les producteurs, ceux qui ne produisent pas, ceux qui reçoivent les déchets, ceux qui les exportent et autres. Et donc, essayer de réguler un petit peu tout ça, ça devrait permettre de limiter peut-être le problème. Ce qui est intéressant également, c'est qu'une coordination comme ça au niveau global, et une convention un peu comme pour la COP pour le climat, si vous voulez, ça devrait permettre de pouvoir engager des actions coordonnées et puis peut-être d'aller voir les industriels de façon à réguler la production ou en tout cas l'améliorer de façon à ce qu'elle soit, je dirais, plus circulaire.
Oui, c'est-à-dire, Jean-François Guiglione, hein, il n'y a pas vraiment de solution si ce n'est la sobriété, c'est-à-dire utiliser moins de produits qui utilisent du plastique pour réduire les déchets.
Aujourd'hui, on arrive effectivement à ce constat avec ce mot qui est à la mode, la sobriété, mais quelque part, cette sobriété, elle doit être heureuse aussi dans le sens où en fait, il faut effectivement refuser, réduire, réutiliser, recycler et rendre à la terre. C'est les 5 R qu'on propose toujours aux consommateurs. Aujourd'hui, en fait, c'est important d'avoir cette sobriété et qu'elle soit heureuse dans le sens où on peut agir aujourd'hui pour l'environnement en réduisant, en refusant les plastiques et en faisant un geste au quotidien.
François Galgani, pour conclure, il vous reste 30 secondes, le dernier mot de la fin.
Écoutez, moi je pense qu'on a donné 6 prix Nobel à des inventeurs de plastique. On pourrait imaginer un futur prix Nobel à quelqu'un qui inventera un plastique qui est recyclable des milliers de fois et utilisable par tout le monde, ce qui limiterait grandement la pollution plastique dans l'environnement.
Eh bien, c'est bien noté pour les prix Nobel de 2023. Merci. Merci infiniment à vous deux de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure. On retrouve Étienne Klein pour sa chronique, le pourquoi du comment.
Le pourquoi du comment de la non-séparabilité quantique. Troisième épisode, l'incroyable article EPR. Le 15 mai 1935 fut publié dans la Physical Review un article incroyable qui sera vite baptisé l'article EPR. EPR étant les initiales de ses trois auteurs. Albert Einstein, Boris Podolsky et Nathan Rosen. Cet article s'intitule « La description quantique de la réalité physique peut-elle être considérée comme complète ?» Question à laquelle les trois physiciens répondent par la négative. Quels sont leurs arguments ? Leurs hypothèses de départ sont les suivantes. Petit a. Les prédictions de la physique quantique sont justes. Petit b. Aucune influence ne peut se propager plus vite que la lumière. Petit c. Si, en ne perturbant aucunement un système, on peut prédire avec certitude, c'est-à-dire avec une probabilité égale à 1, la valeur d'une quantité physique, alors il existe un élément de réalité physique correspondant à cette quantité physique. C'est un peu compliqué, mais, mises ensemble, ces trois hypothèses n'énoncent rien d'autre qu'un critère de réalité très général. Elles précisent ce qu'il faut entendre par le concept d'objet réel, en restant proche d'un certain bon sens. Prenons l'hypothèse B. Elle implique tout simplement qu'il y a des cas où l'on peut être certain que, de deux événements, aucun n'influence l'autre. Lorsque ces deux événements sont si lointains dans l'espace et si rapprochés dans le temps, que la lumière n'a pas le temps de les relier. Ils se passent alors chacun dans son coin, dans des mondes séparés, exactement comme si l'autre n'avait pas eu lieu. Par exemple, un orage sur Jupiter ne saurait avoir d'effet immédiat sur la météo terrestre, et réciproquement, ce qui est certainement fort heureux pour nous. Si l'on applique ce critère dit de localité aux particules, il implique que chacune d'elles transporte avec elle, localement, les propriétés qui vont déterminer les résultats des mesures faites sur elle. Quant à l'hypothèse C, elle exprime que si je peux prédire le résultat de la mesure que je ferai d'une certaine propriété physique, et si ma prédiction est juste à tous les coups, alors j'ai tout lieu de penser que la valeur trouvée pour cette propriété n'est pas une hallucination ni un fantôme. Un élément de réalité lui correspond nécessairement, que le formalisme se doit d'intégrer sans quoi il ne pourrait être considéré comme complet. Fort de ces arguments, nos trois physiciens inventent une expérience de pensée très astucieuse, grâce à laquelle ils montrent que si l'on prend la physique quantique au sérieux, alors certaines de ses implications ne peuvent pas être prises au sérieux. Du moins, selon eux. Je voudrais illustrer cette expérience de pensée par une analogie. Supposons que nous disposions de deux cartes, l'une bleue, l'autre rouge, et que nous les placions chacune dans une enveloppe scellée. Mélangeons les deux enveloppes à l'abri de tout regard, puis donnons-en une à Paul et l'autre à Léa. Lorsque Paul ouvre son enveloppe, il découvre la couleur de sa carte. Le résultat qu'il obtient est évidemment corrélé avec celui qu'obtiendra Léa. Si la carte de Paul est bleue, celle de Léa sera rouge et inversement. Comment interpréter cela ? Tout simplement en disant que les couleurs respectives des cartes de Paul et de Léa étaient déjà fixées avant l'ouverture de l'enveloppe. Elles ont été tirées au sort au moment du mélange des enveloppes. L'ouverture de son enveloppe par Paul n'a fait que révéler une situation qu'il ne connaissait pas, mais qui était parfaitement déterminée. En d'autres termes, ce n'est pas le fait que Paul prenne connaissance de la couleur de sa carte qui a fixé cette couleur, ni qui aurait déterminé ensuite la couleur de la carte de Léa, par l'envoi de quelque information transmise de la première enveloppe vers la seconde. Les deux cartes se trouvent avoir la couleur qu'elles ont, en vertu de la cause commune qui les a fixées, lorsqu'elles ont été chacune glissées dans l'enveloppe. C'est ce type d'argument que l'hypothèse C de l'article BR condense. Il doit y avoir un élément de réalité physique associé à la couleur de la carte de Léa, puisque, sans ouvrir son enveloppe, elle est capable de la connaître. Il lui suffit pour cela de demander à Paul le résultat qu'il a obtenu et d'en tirer la conclusion. Ce qu'Einstein et ses deux collègues démontrent ensuite, c'est que l'application de ce critère de réalité à la théorie quantique conduit à un paradoxe qu'on appelle le paradoxe EPR. Plus précisément, ils établissent que l'ensemble des hypothèses A, B et C conduit à attribuer à deux particules ayant interagi dans le passé des propriétés dont le formalisme quantique ne se fait pas l'écho. Ce dernier est ainsi pris en flagrant délit d'incomplétude. Il doit donc exister, selon eux, un niveau de description plus fin de la réalité que celui que propose la physique quantique. C'est cette conclusion qui mit le feu aux poudres. Nous verrons comment dans une prochaine chronique.
Merci Étienne Klein pour cette chronique et merci à toutes et à tous pour votre écoute. L'équipe de la science CQFD, c'est Antoine Beauchamp, Ève Étienne, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Garance Préma Agnolo, Natacha Demoule et Mariam Ibrahim. À la réalisation, Olivier Bétard. À la technique aujourd'hui, Marie-Claire Oumabadi. Merci aux camarades Sylvain Barassetti de France Bleu Roussillon pour le duplex. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour et souvenez-vous, rien n'est établi.
France Culture et Arte présentent la deuxième édition de Et maintenant, le Festival international des idées de demain. Avenir, environnement, incertitude, engagement, émotion. Et maintenant, on se rencontre et on en discute. Direct, débat et ateliers participatifs, docu-conf et plus encore. Les 21 et 22 octobre, à la Maison de la Radio et de la Musique à Paris et sur un site dédié. Infos et inscriptions, et maintenant-le-festival.fr.